coureur, Patrick. Un coureur est tombé dans le ravin, Patrick. Sur notre gauche. Un coureur est tombé. Un coureur est tombé. Il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre de ma
moto.
Je vais attendre. Je regarde bien avec ce zoule.
Avec l'attaque d'Andy Schleck, là, c'est Nibali le premier à sauter dans sa roue. Franck Schleck est juste derrière. Et Alberto Contador qui vient de partir. Lance Armstrong est lâché.
Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des commissaires de course. Aujourd'hui, on se retrouve avec plaisir le dimanche, tout simplement parce que la saison a déjà débuté. Donc, on va reprendre un petit peu nos bonnes vieilles habitudes et on va débriefer un petit peu tout ce qui s'est passé ce week-end, parce qu'il s'est passé pas mal de choses tout au long du week-end. On va évoquer le Tour Down Under. On va parler aussi forcément du début de saison européen, puisqu'on a couru en Espagne hier et aujourd'hui chez les femmes ainsi que chez les hommes. Et puis, il y avait du cyclo-cross aussi. En Espagne, ce dimanche, avec la victoire de Van Aert qui a bénéficié en partie de la chute de Mathieu Van Der Poel. Donc voilà à peu près pour le programme du jour. Le gros, je pense, de l'émission sera dédié au Tour Down Under et forcément à cette première épreuve World Tour de la saison. Salut à Chef Wigom, salut à Malavita, salut à Cofidis et salut à Jérôme. J'espère que vous allez tous bien, les gars. Comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à me poser vos questions. Aujourd'hui, je ne suis pas sur le vélo, donc ça va être forcément un petit peu plus facile de se concentrer sur l'actu. Et si vous le voulez bien, on va débuter avec le Tour Down Under. Donc, on a eu Willunga dans la nuit de vendredi à samedi. Aujourd'hui, enfin ce matin, oui, c'était aujourd'hui d'ailleurs, ce matin, on a eu la dernière étape, la sixième étape avec l'arrivée au Mont Lofty, une étape qui n'a pas forcément tenu ses promesses, je trouve. On s'est contenté malheureusement d'une course de côte, entre guillemets. Et c'est Stephen Williams, le coureur de la Israel Premier Tech, qui s'impose. Ça, c'est une sacrée opération pour Israël, parce que Williams, vous le savez, était déjà leader. Il avait terminé deuxième à Willunga derrière Oscar Only. Et Stephen Williams, donc, il rapporte quand même un sacré paquet de points à la formation Israel Premier Tech, qui, je le rappelle, est en Pro Team, en deuxième division. Donc, ce sont des points qui vont logiquement compter. Derrière Williams, on retrouve Narvaez et aussi Del Toro. Del Toro qui était un petit peu juste sur les pentes de Willunga samedi. Et ça allait mieux pour le jeune coureur mexicain ce dimanche. Je pense qu'il a manqué un petit peu d'expérience et de maturité dans le final de Vista, on dira peut-être. Parce que Del Toro, pour ceux qui ont regardé, il a fait vraiment énormément d'efforts dans le dernier kilomètre. Et forcément, ça lui a coûté des forces sur la fin. Il était dans une position où il devait lâcher ses adversaires. Mais je pense qu'avec un petit peu plus de bouteilles, il aurait certainement compté un petit peu plus ses coups de pédale et il avait peut-être moyen d'aller remporter l'étape. Mais quoi qu'il en soit, c'est quand même une très belle performance pour Del Toro. Derrière, on a Bart Lehmann. Bart Lehmann, c'est un peu la surprise du chef. Je ne ferai pas de commentaire sur le sujet, mais voilà, on est très loin du niveau qui était le sien lorsqu'il évoluait chez Human Power Elf. On a une grosse montée en gamme pour le coureur néerlandais. Une belle surprise, c'est Lorenz Pitti. Lorenz Pitti qui est plutôt un sprinter, un coureur de classique normalement, et qui là s'est vachement bien défendu sur les pentes du Mont Lofty, cinquième, presque dans le groupe de 4 qui s'est joué la victoire, et devant le peloton des outsiders. Donc c'est franchement une très belle perf pour Lorenz Pitti, qui réalise un très bon Tour Down Under. Ça a été un petit peu juste sur les pentes de Willunga samedi, mais on voit qu'il a quand même été consistant sur le reste des étapes. Premier français, Julien Lafilippe. Julien Lafilippe, c'est intéressant parce que ça confirme un petit peu ce qu'on a vu depuis le début de la course. Penser que ça serait dur lors de cette deuxième étape et au moment où il a un peu explosé dans la roue de Lucas Plapp. Mais finalement, Willunga a validé un petit peu la forme d'Alaphilippe et le Mont Lofty également. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle pour le français. Alors attention, parce que la concurrence n'est pas non plus celle qui l'aura lors de la saison européenne, et il ne fait que sixième de l'étape. Il a toujours quand même été un petit peu un ton en dessous, mais c'est plutôt encourageant pour Julien Alaphilippe, qui va signer un top 10 en World Tour. Damien Hosson, ça c'est aussi un bon coup, parce que Damien Hosson, il est bien placé, puis on retrouve derrière un petit peu tous les outsiders, hein, Valentin Paré-Peintre, Jack Egg, Luca Vergalito, Guerrero, Zimmerman, Zuyoff, Archie Ryan, Only qui a quand même été décevant, je trouve, et Simon Yates. Si on va se pencher pardon, sur le classement général, on va s'apercevoir qu'il y a eu quelques changements, pas énormément, mais quand même quelques-uns. Je vais prendre un petit peu les commentaires avant d'aller sur le général. Ouais, Ghana qui a bien roulé, ils ont bien roulé les Ineos. Il y a eu une chute, c'est dommage, Axel Mario a chuté. Il y a eu aussi Clément Berthet, malheureusement, qui est tombé pour ceux qui ont regardé le final cette nuit. Et Clément Berthet, il était bien placé au classement général. Il aurait certainement terminé dans le groupe qui termine à 10 secondes. Donc c'est vraiment dommage pour le coureur français. Et ça aurait fait de précieux points pour Decathlon à G2R, la mondiale. Narvaez et Del Toro, oui, pour ceux qui avaient Del Toro et Narvaez à Rivals Manager, clairement, c'était, je pense, une bonne chose. Le classement général, désormais, si vous le voulez bien, donc j'ai parlé de Williams, de Narvaez et de Del Toro, qui était le triplé gagnant sur ce tour d'un under. Pas énormément de surprises, si ce n'est Stephen Williams, que moi, je pense, enfin, très sincèrement, je ne pensais pas qu'il tiendrait la route sur le Mont Lofty. Après, on n'est qu'en janvier, il ne faut pas tirer trop de conclusions hâtives. Mais voilà, je pensais qu'il serait quand même un petit peu un ton en dessous et que ça serait plus Only qui prendrait l'avantage. Et finalement, Only a un petit peu craqué et il perd sa place sur le podium. On voit que c'est Narvaez et Del Toro qui complètent. Donc un podium assez intéressant avec des nations d'ailleurs intéressantes, la Grande-Bretagne, l'Équateur et le Mexique. Donc c'est assez diversifié. Derrière, je l'ai dit, Only, Bart Lemon, j'en ai parlé. Julien Alaphilippe, pas trop mal. 6e à 33 secondes. Simon Yates, grosse déception. Alors, il est 7e, donc c'est quand même pas trop mal, mais quand même, je pense que c'était le grand favori de la plupart des observateurs. Simon Yates, son duo avec Lucas Plapp devait faire des étincelles. Et finalement, Simon Yates, même si sur sa qualité naturelle, il est pas loin, il a jamais été en mesure de lutter avec les meilleurs. Il perd quand même 33 secondes sans avoir forcément été énormément acteur de la course. En plus, Chris Harper a fait un énorme boulot pour lui. C'était presque à se demander si Chris Harper n'était pas meilleur que Simon Yates sur ce tour d'un under. Parce que moi, je l'ai trouvé très impressionnant dans Willunga. Je l'ai trouvé bon encore une fois dans le Mont Lofty. Et son travail d'équipier n'a pas été validé par Simon Yates, qui était un petit peu un ton en dessous de ses concurrents les plus farouches. Donc, il termine 7e au général. Valentin Paré-Pin, super performance du coureur français. Le petit frère d'Aurélien qui signe son premier top 10 en World Tour. Ça, c'est quand même très costaud. Alors, encore une fois, c'est que le tour d'un under, mais c'est quand même un petit peu jackpot pour la formation des Decathlon à G2R, parce que je vais aller sur les points sur le site de nos amis de First Cycling. Vous le voyez, avec le nouveau barème, c'est quand même vachement intéressant parce que Valentin Paré-Pin rapporte 125 points à AG2R. Il n'était pas, j'imagine, forcément prévu dans les très très gros scoreurs. Donc c'est quand même l'équivalent d'une victoire sur une épreuve de Coupe de France, par exemple. Un Paris-Camembert, un Tour du Finistère, une Route Adélie, etc., etc. Donc c'est quand même pas négligeable et il sera certainement, même largement, je pense, dans le top 20 scoreur à la fin de la saison, même s'il ne devait plus performer, je pense, jusqu'à la fin de l'année. Damien Hausson, ça c'est intéressant aussi. Il courait sous les couleurs de la formation, de la sélection australienne, mais il appartient à la structure Q36.5, ce qui veut dire que les 100 points qu'il récolte, et là aussi c'est pas négligeable, vont à Q36.5, et ça c'est assez important. Derrière, on retrouve des outsiders, des gars qu'on avait cités un petit peu pour un top 10, ont peut-être été un petit peu décevants. Je pense à Jörg Zimmermann et Ben Zwiehoff, les deux Allemands. On pouvait penser aussi que Guerrero serait un petit peu mieux que ça. On avait parlé de Vergalito aussi, que bon, peut-être lui plus ou moins à sa place, hein, qui n'est pas non plus le meilleur coureur du peloton. Storer, pas trop mal, 20e du classement général. Ça fait une trentaine de points pour Tudor, 30 points même pour être précis. Donc là aussi, c'est assez intéressant. Et derrière, on retrouve le très polyvalent Laurens Pitti, qui a perdu du temps à Willunga, mais en dehors de ça, il était quand même intéressant. Je crois que ça avait été compliqué lors de la première étape aussi, mais peut-être que je dis une bêtise. Non, il avait chuté, il n'avait pas pu jouer le sprint, si je ne dis pas de bêtises. Puis dans le top 30, on retrouve des jeunes, hein, Archie Ryan, qu'on aurait peut-être pu attendre un petit peu plus haut, le jeune Irlandais de la IF, et puis Antoine Hubi, qui est pas trop mal aussi pour des débuts. Nouveauté sur le site de nos amis de First Cycling, et ça va être très intéressant, je trouve, de voir ça tout au long de la saison, avant les classements UCI. C'est tout simplement, comment dirais-je, ils nous font un classement par équipe. Donc ça, c'est cool, parce que ça nous permet d'avoir un aperçu de ce qui a été réussi, ou pas, d'ailleurs, par les différentes structures qui sont en lutte pour le maintien ou l'accession au World Tour. Donc comme c'est la sélection australienne qui était présente, je pense qu'ils n'ont pas l'outil pour mettre les points de Q36.5 et de Tudor, comme ils n'étaient pas sur la course, c'est pas très très grave. Mais pour mémoire, on peut se souvenir que Q36.5, c'est 100 points. Donc entre Alpecin et Groupama FDJ, et Tudor, c'est 30 points. Donc Tudor fait autant qu'IF Education Easy Post, alors qu'IF Education Easy Post avait amené cette coureur, et que c'est quand même une grosse structure. Hein. Je pense que c'est l'équipe la plus décevante de ce Tour Down Under. D'ailleurs, je les ai mis dans les flops, IF Education Easy Post. Je les ai mis avec je ne sais plus qui d'ailleurs, il me semble avoir mis Simon Yates. Je vais couper la vidéo qui va se lancer toute seule. Tac, Simon Yates, Caleb Ewan et IF Education Easy Post. Ça, c'était un petit peu les flops que j'avais trouvé pour ce Tour Down Under. Et j'avais pas vu le détail des points sur First Cycling, et ça valide un petit peu ça. Koff, ça a été dur, mais Koff, malheureusement, Mario a chuté. C'était peut-être le meilleur espoir pour le classement général. Donc, on a vite fait de perdre quand même pas mal de points au général, sachant qu'on n'avait pas de gros sprinter au départ pour aller scorer. Arkea, ça a été difficile. Heureusement qu'il y a eu Dan Maclay, parce que pour le reste, et je vais aller sur le détail, hein, d'ailleurs, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que First Cycling nous propose le détail. D'ailleurs, vous voyez qu'il n'y a que deux coureurs pour IF qui ont marqué des points. 5 pour... comment dirais-je, pour Cofidis, c'est Milan Fretin et qui s'en est le mieux sorti, et c'est quasiment que des points sur les étapes, parce que je vais remonter. La deuxième, c'est le JC. Donc la deuxième colonne, c'est le classement général, et le reste, c'est les étapes. Donc on voit qu'il y a des petits points de fond de classement, parce que c'est le top 60 qui score, et Fretin qui lui score 25 sur une étape. Arkea, ça a été décevant. Comme je l'ai dit, pas beaucoup de points. Dan Maclay, heureusement, en a mis 30 sur une des étapes. C'est quasiment 50% du total de l'équipe. Astana s'en sort guère mieux. Là, pareil, heureusement qu'il y avait Max Canter, mais il y a eu une chute. Hein. Vous vous rappelez, il y a une chute où il y avait Scaroni, Battistella et je ne sais plus qui était pris dedans. C'était en gros les trois leaders d'Astana, donc forcément, ça réduit les chances de scorer au classement général. La Lidl Trek, très loin du compte. Pour une équipe qu'on considère désormais être une armada du World Tour, on ne score que 82 points, puis ensuite on retrouve Movistar, etc. Je ne vais pas toutes les faire, hein, ça n'a pas trop d'intérêt. On va se concentrer ensuite sur celles qui vont lutter pour le maintien. Je vous rappelle qu'au classement, 18e AG2R, donc première non relégable, 19e Arkea, 20e Astana, où il y a peut-être une OX entre deux, mais une OX n'était pas là. Mais dans les équipes qui étaient là et qui font une belle opération, c'est Decathlon qui s'en sort le mieux, parce que Decathlon, eh bien, ils mettent 180 points, ça veut dire que c'est quand même une bonne centaine de points en plus par rapport à Arkea, et ce n'était pas forcément des points attendus. C'est ça qui est intéressant, parce que j'imagine que quand on a fait le tableau de marche de la saison et les points qu'on pouvait obtenir un petit peu à droite et à gauche, je ne suis pas sûr qu'on avait ce cocher de 135 pour Valentin Paré-Peintre ou même 180 pour l'ensemble de l'effectif sur le Tour Down Under. Donc on a surperformé, et ça c'est intéressant dans l'optique des points, surtout qu'on est sur un top 20 et pas un top 10. Si on était sur un top 10, peut-être qu'avec 135, Valentin Paré-Peintre, eh bien, n'aurait pas réussi à intégrer ce top 10, mais là avec un top 20, on est plutôt serein. Une autre équipe qui est 17e au classement et qui a fait des gros points, qui sera très forte, hein, je pense, cette année quand même par rapport au reste, enfin qui sera au-dessus de la concurrence, c'est DSM Firmenich, 357 points. Donc là aussi, on creuse vraiment beaucoup par rapport à ses concurrents, alors qu'on a mis que 3 mecs dans les points. Mais là-dedans, il y a Oscar Only, 335. Et forcément, avec le nouveau barème, ça fait la diff. A noter aussi, comme je l'ai dit, que Israël marque de gros points. Ça, c'est intéressant aussi, parce que Israël, ils sont quand même pas trop mal placé, je crois qu'ils sont 14 ou 15e sur la saison 2023, mais eux, ils ont un autre enjeu, c'est de réussir 2024 pour avoir les invitations automatiques et débuter 2024 avec 775 points en compteur. C'est quand même assez énorme, sachant que la loto n'était pas présente, donc a fait 0 points tout simplement sur ce Tour Down Under, que une X n'était pas là non plus, que Total n'était pas présente. Donc vous voyez bien que les concurrents, 775 pour Israël, rien pour les autres, 100 pour Q36, mais qui est quand même un petit peu en dessous, même beaucoup en dessous d'Israël, et 30 pour Tudor. Donc là, il y a quand même un gros gros gap, je trouve, entre les différentes formations. Bref, on va passer à la suite. On regarde déjà les points. Greg n'est pas là, c'est pour ça que j'en parle et que j'en profite. First Cycling fait ce que l'UCI n'arrive pas à faire. Mais ouais, mais comme quoi, c'est facile. Parce qu'en fait, c'est du code. Enfin, c'est très, très bête. C'est très, très simple. Il suffit juste de pouvoir additionner les points. Et si First Cycling le fait en temps réel, Je comprends pas pourquoi l'UCI, qui a quand même beaucoup plus de moyens, n'est pas en mesure de le mettre en place. Et comme je l'ai dit dans une précédente émission, ça augmenterait l'intérêt des points d'être en mesure de le faire. Salut à Vélopanache, tiens, d'ailleurs, j'en profite. Salut à Samuel aussi qui nous rejoint sur le live. On va enchaîner, les gars, si vous le voulez bien, avec la suite des épreuves. Donc, là, on va revenir un petit peu sur hier quand même, parce qu'il y avait des courses. Si Jayco s'est troué un petit peu au Down Under, la campagne espagnole, elle débute un petit peu de la meilleure des manières, parce qu'hier, on avait la Clásica de la communauté de Valence. Donc. Et c'est Dylan Groenewegen qui s'est imposé. Dylan Groenewegen qui devance Brian Cocard. Tim Thorne Teutenberg, qui est le fils de Sven Teutenberg, je crois. Ensuite, Simolai, Syriza, Canal, Marc Sarro qui est septième. Puis Mozzato, Oliveira et Amaury Capiot. Donc voilà un petit peu pour le détail de cette épreuve de points. Et quand on regarde le détail, c'est intéressant si on le met en parallèle, pardon, avec ce qui s'est fait au Down Under. On voit que l'équipe qui rapporte le plus de points, c'est Jayco. Et Jayco, elle en met que 125. Donc par rapport aux 775 d'Israël, eh bien ça ne fait pas énormément de points. Et je le disais, par exemple, un Valentin Paré-Peintre, en faisant 8e ou 7e, je ne sais plus, il a fait autant de points que Groenewegen qui va claquer une point où il y avait quand même un petit peu de concurrence. Donc c'est des points au World Tour qui vont plus compter que d'habitude. A noter que Arkea s'en sort pas trop mal. Donc Arkea va peut-être combler un petit peu une partie de son retard sur certaines des formations en allant choper 50 points. Astana en fait 50 aussi. Et le reste, AG2R en fait 16. Mais bon, ils ont plus d'avance grâce à, comment dirais-je, au Tour Down Under. Donc voilà pour cette course d'hier. On va parler de celle d'aujourd'hui. Celle d'aujourd'hui, je l'ai regardée hier, on va dire. Je ne l'ai pas du tout regardée. Mais là, j'ai regardé le final. On a vu qu'il y avait une échappée à un moment et que ça s'est joué au sprint, un sprint en costaud. Et sans surprise, je pense que c'est Michael Matthews qui s'est imposé. C'était le meilleur sprinter au départ de la course. Dans une configuration comme ça, en faux plat montant, il est quand même difficile à aller chercher. Et ça permet à Jayco de faire 2 sur 2, tout simplement, après le succès de Groenewegen hier. Donc Michael Matthews vainqueur, belle surprise, vraiment côté français. Pierre Gautra, sincèrement, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui aurait misé sur Pierre Gautra pour un podium sur cette Ruta de la Ceramica. Donc très très belle performance du français. Ça valide aussi le bon Down Under de la formation Decathlon AG2R, là, qui va récupérer aussi des précieux points. Derrière, on retrouve Aramburu, David Gonzalez, Stefano Aldani pour la Cofidis, Jent Biermans pour Arkea, Paul Miguel Delgado, Jasper De Beust, Lennart Tegels et Brian Cocard, qui était un petit peu juste pas très bien placé dans le final, mais c'était peut-être un petit peu dur pour Brian aujourd'hui, qui a fait une belle perf hier, et on jouait peut-être un petit peu plus la carte Stefano Aldani aujourd'hui, mais quoi qu'il en soit, ça fait 2 coureurs dans le top 10 pour la structure Cofidis. Un petit tour sur les points, si vous le voulez bien. On va voir que AG2R score beaucoup, qu'Arkea a toujours eu, comme sur l'autre course, une quarantaine de points. Par contre, ça a été un petit peu plus dur pour la formation, Astana. Le classement, donc la suite, pas grand-chose à signaler. Hein, derrière, c'est assez anecdotique, on va dire. Bref, poursuivons, si vous le voulez bien, un petit peu. Tu n'as pas rien loupé hier, c'était une catastrophe. Ben, j'ai bien fait de pas regarder du coup. Ouais, je vais en parler du cyclocross. Ouais, je lis. Ah, c'est son père, c'est son neveu, d'accord. Je crois que c'était. Son père, c'est Lars et c'est Sven. Ah oui, j'ai confondu Lars et Sven. D'accord, merci pour la précision. Ouais, les images, apparemment, hier, c'était horrible. J'ai vu des copies d'écran, par contre, et j'ai remarqué que c'était quand même assez compliqué. On va parler des femmes, vite fait. Doublé, si ça n'a pas marché pour IF chez les mecs. 2 victoires pour la structure féminine de IF avec Valia Mills aujourd'hui. Et hier, il me semble que c'est Noémie Rock qui a gagné. Donc plutôt une belle performance, je trouve, pour IF du côté de féminin. Et c'est une bonne chose parce qu'il n'y avait pas de trophée Challenge de Majorque chez les femmes. Et c'est désormais chose faite. Donc c'est plutôt très très cool de voir qu'on tend vers la parité aussi au niveau des épreuves. Le cyclocross, désormais, si vous le voulez bien. Désolé, je vais un peu vite aujourd'hui, mais ce dimanche-là, il n'y a pas non plus énormément de choses à dire. On n'a pas encore les mises à jour des classements, il n'y a pas d'actu, donc à part commenter les courses, et c'est vrai que le Down Under, bon, n'y a pas grand-chose à dire sur l'étape. Ça s'est joué une course de côte. Valence, c'était un sprint. On a vu que le trophée Palma, il n'y avait rien de phénoménal non plus. Donc, c'est pour ça que ça va quand même assez vite. Et puis, il n'y a pas énormément de choses à dire. Femme Van Empel qui gagne donc le cyclo-cross chez les femmes. J'ai pas regardé la course féminine. J'avoue que j'étais branché sur autre chose. La sieste, à vrai dire. Je me suis levé à 4 heures ce matin. Chez les juniors, ça c'est intéressant parce que ça cartonne vraiment côté français chez les juniors. Aubin Sparfel qui gagne chez les gars et chez les filles, c'est Célia Géry. Donc on a vraiment une belle génération de juniors là, qui pointent le bout de son nez et c'est plutôt très très cool à voir. Du côté des hommes, j'ai regardé la deuxième partie de course entre enfin, de Benidorm tout simplement et c'est Wout Van Aert qui s'est imposé. J'avais l'impression que Van Der Poel était quand même le plus fort. Je ne sais pas si vous avez eu le même sentiment, vous. J'ai l'impression aussi que l'écart s'était resserré hein, en termes de niveau entre Van Aert et Van Der Poel. Que Van Der Poel a mis des sacrées pralines et Van Aert a quand même réussi à mieux tenir qu'en début de saison ou que lors de la première partie de saison. Donc on sent que le Belge, il monte quand même en intensité en vue de la route. Mais Van Der Poel me paraissait quand même un petit peu plus fort. Il y a une espèce de chute, je n'ai pas trop compris ce qui s'est passé, parce qu'on n'a pas vu l'image en direct. On a juste vu qu'à un moment, à la sortie du sable, il était plus dans les roues, Van Der Poel. Et il s'est retrouvé derrière Clément Venturini, qui était peut-être à une bonne vingtaine de secondes. Donc je pense que quand on est Van Der Poel, on vise avant tout la gagne. Donc on prend un sacré coup sur le casque quand on se dit qu'à un tour de l'arrivée, on a pris 20-25 secondes et que c'est terminé pour la victoire. Surtout que Van Aert en a profité logiquement pour mettre une grosse accélération. Donc Van Der Poel a mis un peu de temps, il est resté longtemps derrière Venturini, alors que je pense qu'il avait quand même les moyens physiques de le rattraper. Et il a fait un gros effort dans le dernier tour, ce qui lui permet de terminer cinquième. Et il était finalement pas loin du podium. C'est là aussi qu'on voit la différence quand même entre Van Aert, Van Der Poel et le reste du monde. Parce que c'est quand même pas décadé, hein, les mecs qui rattrapent. Il y avait Pidcock, il y avait Van der Haar, il revient très très proche de Thibaut Nice et d'Elise Herbig, donc il y a quand même un gros gap, je trouve, entre les deux vannes, comme on pourrait les appeler, et le reste du monde. À noter que Ventura était pas mal, il a longtemps tenu la roue de Wout Van Aert sur le faux plat montant, qui était asphalté d'ailleurs, parce que assez bizarre, je trouvais qu'il y avait trop d'asphalte. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Pour moi, un cyclocross, même si je ne suis pas le plus grand fan, ni le plus grand connaisseur du cyclocross, ça reste quand même les labourés. Et là, enfin, ça donne encore plus un avantage, je trouve, aux routiers sur la partie asphaltée. J'ai l'impression qu'on veut maintenir un petit peu le suspense le plus longtemps possible en ayant du plat asphalté, parce que forcément, on ne va pas sortir sur du plat et qu'on peut moins faire de différence sur la route quand il n'y a pas de gros pourcentage. Et voilà, ça maintient tout le monde ensemble assez longtemps. Mais au final, faut pas confondre, je pense, suspense et qualité de la course et tradition, j'ai envie de dire. Donc voilà, enfin moi j'aime bien le cyclocross quand il y a de la boue, quand il y a de la poussière, quand il y a de la terre, etc. Voire de la neige, hein, pourquoi pas. Je trouve que l'épreuve en Italie est plutôt cool, ou vraiment que du sable, comme c'est le cas sur certains crosses. Mais l'asphalte, bof, bof, quoi, je suis pas trop, trop fan du tout. Quoi qu'il en soit, victoire de Van Aert, il a failli perdre Van Aert, parce que pour ceux qui ont regardé la fin de course, à un moment, il a failli se péter la gueule. Et j'ai cru qu'il allait manger son guidon et ça a été compliqué. Je crois qu'il a cassé sa selle, si j'ai bien lu ce qu'il se disait sur les réseaux sociaux. Et c'était quand même assez complexe. Hein. Ventura Nuth a failli rentrer. Je pense qu'il ne fallait pas qu'il y ait un tour en plus. Que s'il avait plus de tige de selle ou si elle était à moitié cassée, ça aurait pu être très très complexe le temps de repasser au stand. Et quoi qu'il en soit, en tout cas, Van Aert s'est imposé. Et oui, les watts de Van Der Poel, je ne sais pas si ça va être disponible sur son Strava. Mais ouais, clairement, les watts de Van Der Poel, je pense, sur les minaces qu'il a envoyées là sur l'asphalte, ça peut avoir son intérêt. Et je suis d'accord avec Jérôme, pour moi, l'asphalte en cross, il y en a toujours un petit peu, mais ça doit se cantonner à l'arrivée et au départ, quoi. Quand c'est joué, on peut jouer le sprint, enfin, on peut jouer le sprint sur l'asphalte, c'est pas un problème. Mais quand il y a vraiment trop d'asphalte, je trouve que c'est un petit peu dommage, quoi. Enfin bon, après Benidorm, je pense que c'est une manche un petit peu pour le spectacle, qui arrange un petit peu pas mal de monde, parce que si tout le monde est en stage en plus dans cette région-là de l'Espagne, à cette période-là de la saison, ça permet voilà, d'être un petit peu tranquille pour, comment dirais-je, pour pas avoir un gros déplacement et on poursuit sa préparation en Espagne. Ensuite, j'imagine que dès demain, ils vont continuer à aller rouler, hein, les Nice, les Van Der Poel et les Van Aert. Ouais, apparemment, il y a les pubs, je vois que, comment dirais-je, les pubs ont changé. Donc désormais, c'est une pub toutes les demi-heures, si j'ai bien compris, comment dirais-je, pour Twitch, sauf pour les abonnés. D'ailleurs, c'est pour ça, n'hésitez pas à payer, hein, je sais pas le but, mais pour ceux qui ont Amazon Prime, vous pouvez lier votre compte à Amazon Prime à comment dirais-je, à Twitch, et ça vous permet de vous abonner gratuitement et de profiter du service sans publicité. Ça ne rapporte pas énormément, mais bon, ça permet aussi de financer les différents frais liés à la gestion du site. Donc, on ne peut pas non plus trop se permettre, malheureusement, même si on aimerait bien, de supprimer les pubs. Ou alors, il faudrait trouver un très gros donneur. Si vous connaissez un milliardaire qui a envie d'investir dans VCN, n'hésitez pas. Bref, plus sérieusement, on va revenir un peu à notre cyclocross. Donc, on est presque en fin de saison. J'ai envie de dire que c'est dommage, parce qu'on voit que Van Aert monte quand même pas mal en gamme, mais malheureusement, le Belge ne sera pas au départ des championnats du monde dans 15 jours, pas plus que Tom Pidcock. Donc, sauf incident, j'ai envie de dire, j'ai peur que ça soit quand même une belle grosse promenade de santé pour Mathieu Van Der Poel, et que ça soit assez complexe quand même pour les concurrents de venir l'accrocher, parce que là, on voit que Van Turenhout était pas mal, mais je pense que s'il n'y a pas Van Aert, je ne crois pas que Van Turenhout soit capable d'accrocher Van Der Poel quand il accélère. Donc s'il se retrouve comme souvent avec 30 secondes, 40, 50 secondes d'avance, 50 secondes d'avance sur la concurrence, j'ai du mal à croire que même s'il y a un incident mécanique, il puisse être rattrapé. D'ailleurs, on l'a vu, Van Aert a chuté, un petit incident, et finalement il remporte quand même la course. Donc il y a une marge telle qui fait que voilà, il ne devrait pas y avoir normalement trop de suspense lors du mondial, sauf si bien entendu il y avait un gros incident. Bon, on souhaite pas non plus, enfin moi je souhaite pas que Mathieu Van Der Poel subisse un incident mécanique pour qu'il y ait du suspense. Enfin, c'est pas le but. S'il est plus fort, il est le plus fort et qu'il gagne, c'est bien normal. Oleg Tinkoff a rejoint la discussion, ouais, peut-être. Dommage qu'il n'y aura pas Van Aert. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, ouais. Il n'y aura pas grand monde parce qu'il n'y aura pas Pidcock non plus. Donc à partir de là, c'est plié, je pense. Il y aura tout le monde, tous les autres, mais sans Van Aert et sans Pidcock. Déjà que Van Der Poel, je crois que c'est sa première défaite de la saison. Je vais parler sous le couvert de ceux qui suivent vraiment le cyclocross tout au long de l'année. Mais oui, ouais, il n'y a pas une défaite. Et là, elle est liée à un incident mécanique. Donc ça va quand même être compliqué d'aller le chercher, je pense. Enfin, en tout cas, je serais vachement surpris qu'il ne soit pas champion du monde dans 15 jours. D'ailleurs, je ne sais même pas où est le championnat du monde. Je n'ai pas regardé où c'était. Bref, je pense qu'on a fait le tour de l'actu du jour. Il y avait des championnats aussi en Thaïlande et en Uruguay. Vous voyez que c'est quoi qu'on ne connaît pas trop qu'on gagnait. Jonathan Caicedo, qui n'a pas de contrat, qui était chez IF l'an passé, a remporté la Vuelta à Táchira. Et on va finir l'émission tranquillou, je pense, sur une projection des courses à venir cette semaine. Donc je vais aller sur courses et résultats sur le site de nos amis de First Cycling. Donc chez les hommes, demain on est le 22, donc ça devrait être du 22 au 28 la semaine, si je ne dis pas de bêtises. On aura le Challenge de Majorque qui commence mercredi, donc il y aura une manche tous les jours jusqu'à dimanche, 5 au total. Une nouvelle épreuve qui fait son apparition en Australie, qui permettra de faire le lien entre le Down Under et la Cadel Evans Race, c'est la Surf Coast Classic. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, une épreuve de points pour ceux qui vont rester en Australie, parce que tout le monde ne va pas rester, il n'y a que 10 formations du World Tour qui sont inscrites à la Cadel Evans, donc ça fait vraiment très peu, mais il y aura des points faciles à prendre du coup pour ceux qui seront là, parce que je crois qu'il y aura que 13 équipes au départ de la Cadel, et certainement plus ou moins pareil pour la Surf Coast, quoiqu'il y aura peut-être des contis australiennes qui auront le droit de participer un petit peu plus pour cette épreuve de points. On aura le Tour de Sharjah aussi à partir de la fin de semaine, avec un beau plateau. J'ai vu qu'il y avait quelques formations de Pro Team. On aura notamment Burgos, je crois qu'il y aura Sen Bayard qui sera là. On aura Coratec certainement avec Marek Sko. On aura Rouraille, une équipe qu'on connaît, puisque le manager est français, c'est Peter Pouli. Il y aura notamment Lucas Carstensen et Anne Neuve en Engelen. Donc ça va être intéressant. Côté Philippe Wagner-Bazin, on aura les frères Barbier qui seront des candidats pour les victoires d'étape au sprint. Je crois que le parcours est équilibré. Il y a quelques sprints au programme, il y a un chrono de 7 km et il y a une étape qui, au moins une étape qui arrive en altitude. Je vais aller vérifier quand même que je ne dis pas de bêtises. Enfin en altitude non, hein, mais une arrivée en sommet en tout cas. Donc vous le voyez, c'est un parcours qui est intéressant. Trois sprints, je pense. Non, deux sprints, pardon, un chrono de 10 km et pas 7, j'ai dit une bêtise. Et on verra, parce que le profil là peut être trompeur sur cette première étape. Donc je sais pas si ça arrivera au sprint ou en petit comité. On verra bien. En tout cas, ça sera pas retransmis de toute façon, puisque c'est une épreuve de 2.2. Grand Prix Antalya aussi dimanche, et forcément le début de samedi, pardon, et forcément la course de l'année pour Greg, le Grand Prix de la Marseillaise qui aura lieu dimanche, début de la saison française. Donc vous le voyez, on commence vraiment à rentrer dans le vif du sujet. On a une petite pause là, lundi et mardi chez les hommes, et ensuite on va courir, et il y aura même quand même pas mal de courses dimanche, qu'il y aura la Marseillaise, la Cadel-Evans-Swiss, la manche de Majorque, l'étape du Tour de Charja. Donc ça commence déjà justement à être un petit peu chargé, sans faire de mauvais jeu de mots. Chez les femmes, on va continuer à courir, ça c'est cool. Demain, il y aura quand même une épreuve. Demain, il y aura la dernière manche du challenge de Majorque féminin. Il n'y a que trois manches chez les femmes, mais c'est bien, ça commence déjà à progresser. Il y aura la Cadel Evans-Swiss aussi, bien entendu, qui se disputera la veille, donc dans la nuit de vendredi à samedi. Et dimanche, le Grand Prix d'Almeria. Bon, c'est pas exactement l'appellation, mais il y aura aussi une épreuve féminine dimanche chez les femmes. Donc voilà à peu près pour le programme. Le cyclocross, j'ai pas trop regardé comment ça allait se passer. On va, désolé pour le scroll assez rapide. Il reste une dernière manche de Coupe du Monde, donc ce sera à Hoegaarde. Et on verra si Van Der Poel sera là. Je sais pas s'il fera l'impasse sur cette manche-là pour pouvoir récupérer un petit peu avant les championnats du monde de cyclocross. D'ailleurs, il y a une manche à Lille qui est en Belgique, c'est assez curieux, ça. Petite particularité. Et les mondiaux, je ne sais pas où ils ont lieu. À Tabor, bah voilà, comme ça c'est parfait, il y a l'info par rapport à ça. Tabor, bah Chef Wiggum le dit aussi sur le chat. Fagundes, ouais, il a participé, mais de ce que j'ai entendu, Fagundes n'est pas trop en forme en ce moment. Donc je pense que c'est un petit peu compliqué pour lui. Je pense que ça ira mieux, mais s'il est petit, je sais pas, il est peut-être malade ou un petit truc comme ça, ou un petit gène. Et forcément, ça tombe mal le week-end des championnats parce qu'il y a pas mal de points en jeu pour Burgos. Et je pense que c'était pas trop prévu de faire une bulle aujourd'hui sur le championnat d'Uruguay. Ouais, nouvelle course, hein, la surf classique, mais je pense que c'est la suite logique d'une épreuve qui existait il y a quelques années. C'était pas la Torquay classique ou un truc dans le genre, si je trouve j'ai une bêtise, mais je crois que c'était Torquay qui avait disparu avec le Covid. Qui refait son apparition. D'ailleurs, ça me permet de dire qu'il y avait quand même beaucoup de monde sur les pentes de Willunga et du Mont Lofty. Et c'est dommage qu'on n'ait pas une vraie tournée australienne. Je pense que vous vous souvenez de la Ralston Tour, qui était une belle épreuve de points, qui permettait une continuité dans le calendrier. Les Bécrites ont disparu cette année. C'était toujours rigolo de voir des petits critériums comme ça, même si ce n'était pas UCI en tout début d'année. Donc voilà, ça serait quand même cool si on pouvait retrouver un vrai mois de compétition en Australie et en Nouvelle-Zélande. Il y avait la Gravel Antar aussi de la nuit de vendredi à samedi. Donc j'espère que l'engouement qu'on trouve sur les épreuves du calendrier australien permettront à d'autres organisateurs de se lancer. Ça serait quand même sympa d'avoir une vraie tournée en Australie en janvier. Je pense que c'est un pays de vélo et il mériterait d'avoir un petit peu plus de courses, même si on sait que c'est compliqué, bien entendu. Bref, je pense qu'on a fait un petit peu le tour du sujet. Comme je l'ai dit, il n'y avait pas d'actu du tout aujourd'hui, donc pas énormément de choses à traiter. Je regarde un petit peu, mais non, il n'y a pas grand-chose, même rien du tout d'ailleurs au niveau de l'actu. Donc je pense que demain, il y aura certainement plus d'infos, des compos, des petites news, etc. Et on verra bien ce qu'il en est. Je pense qu'on va se retrouver demain soir pour une petite émission tranquillou. Et si ce n'est pas le cas, ça sera de toute façon mardi. Je vous souhaite à tous un bon dimanche soir. Et on se donne rendez-vous demain donc ou mardi pour une nouvelle émission des commissaires de course. Ciao!